Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10€ vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier et inédit parce que je suis très heureuse d'interviewer Clara et Mika. Donc ça va être une interview croisée, papa-maman. Et donc Clara et Mika, qui sont les parents de Thelma qui a 5 ans et demi et des jumeaux Lou et Pio qui ont 6 mois. Donc bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pourriez s'il vous plaît vous présenter ?
Alors moi c'est Clara, j'ai 31 ans, je suis attachée de presse, j'ai monté mon agence et je suis la maman de Thelma, Lou et Pio.
Et en ce qui me concerne donc Mika, le père de Thelma, Pio et Lou et je suis auteur radio, télé et animateur radio.
Super, merci pour cette présentation. On va commencer avec la question rituelle de Nouveau Chapitre. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir comment vous avez appréhendé votre rôle de parent. Est-ce que, on va commencer par le commencement, est-ce que vous avez toujours eu envie d'avoir des enfants ? Comment ça s'est passé ?
Alors, moi, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. J'ai 4 sœurs, donc j'ai vraiment grandi dans un univers avec plein d'enfants. Donc pour moi, c'était évident de devenir maman également. Bon, pour ça, il fallait trouver le mari. Donc,
c'est vrai.
À partir du moment où j'ai rencontré Mika, on s'est mis en tête d'avoir des enfants assez vite parce que je suis tombée enceinte de Thelma. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble.
D'accord.
Donc ça a été quand même une grande évidence pour nous deux. Surtout une évidence d'avoir plusieurs enfants pour moi.
Et alors, en ce qui me concerne, moi, je suis fils unique, donc c'était plus particulier. Je me voyais évidemment être père, pas forcément de nombreux enfants, mais je suis aujourd'hui peut-être le père le plus heureux du monde. Voilà, être père de 3 enfants, c'est une aventure, c'est nouveau pour moi. Voilà, j'étais seul à la maison, donc je sais ce que c'est et je suis très heureux aujourd'hui justement d'avoir offert d'avoir offert Pio et Lou à Thelma. Créé cette fratrie autour de nous deux. Ouais.
Et du coup, après la naissance de Thelma, au bout de combien de temps vous avez eu envie de faire un deuxième ? Quand est-ce que s'est lancé le projet ?
Alors, le projet, on en a parlé pas tout de suite après. On a d'abord
atterri,
récupéré un peu de forme après la naissance de Thelma. Donc, c'est un premier enfant, ça chamboule beaucoup de choses. Mais on a rapidement, quelques mois ou très peu d'années après, mis sur la table le fait d'avoir d'autres enfants, en tout cas un autre enfant. Mmh. On n'était pas persuadé d'avoir des jumeaux à ce moment-là. Et entre-temps, il y a eu une demande en mariage, donc ça a décalé un petit peu dans le temps avec l'organisation de ce mariage à l'étranger, etc. Et puis on n'a pas voulu tout faire en même temps. On s'est dit, allez, on se concentre d'abord sur nous, le mariage c'est important, et on verra après ce mariage... Pour faire un deuxième enfant et 2 et 3 enfants du coup.
D'accord. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même 5 ans d'écart.
Ouais.
Donc, on en a beaucoup parlé depuis 5 ans, forcément, de l'idée d'avoir un autre enfant. Mais c'est clair que il y avait le mariage, c'était un bel événement, on avait envie de le vivre à fond. Et donc, du coup, il y a eu un beau mariage entre les naissances.
C'était il y a combien de temps le mariage du coup ?
C'était donc il y a 1 an et demi.
Il y a un an et demi, oui.
Ouais, il y a 1 an et demi et la demande a eu lieu 1 an avant. Donc ça a mis en pause ce projet d'enfant pendant 1 à 2 ans en tout cas, une bonne année et demie où on s'est concentré sur nous deux. C'était important aussi après la naissance de Thelma de ne pas s'oublier, de construire cette union. Et puis une fois que c'était fait, effectivement rapidement on s'est dit bon allez, maintenant c'est parti.
Ouais, après à partir du moment où on s'est mariés, l'été est passé. Et puis rapidement, le projet d'enfant il est venu directement parce que c'est un vrai projet de cœur pour nous.
Ouais.
Et j'ai eu la chance de tomber enceinte rapidement. Donc, mmh. C'est vrai que voilà, 5 ans après Thelma, c'était parti pour la suite. Il y a eu la surprise.
Dont on va parler, exactement. Et donc, du coup, on va parler de cette grossesse en particulier, cette grossesse gémellaire que vous avez vécue collectivement. Et aussi, on va en parler en comparaison, en tout cas, on va parler aussi de la première. Déjà, à quel moment vous avez su que vous attendiez des jumeaux? Est-ce que vous l'avez su très rapidement ou...
Alors, assez rapidement, en fait, Clara a rapidement compris qu'elle était probablement enceinte et voilà, donc il y a eu un test de grossesse. On est rapidement allé faire une écho pour aller checker
tout
vérifier,
ça. Vérifier.
Vérifier. Et lors de cette échographie, en fait, c'est moi qui me suis aperçu en premier qu'on attendait des jumeaux. Clara n'avait pas percuté tout de suite sur l'écran.
T'as vu de suite
Moi, j'ai vu tout de suite. Alors, pour la petite histoire, moi, mes deux parents sont jumeaux. C'est-à-dire mon père a un frère jumeau, ma mère avait un frère jumeau. Et donc, au fond de moi et au fond de nous, puisque Clara le sait très bien, même pour Thelma, d'ailleurs, on avait presque été étonnés de ne pas avoir des jumeaux.
C'était une possibilité.
C'était plus qu'une probabilité. Ça faisait quelques jours que Clara, même le matin même de l'écho, se moquait un peu de moi.
En fait, il y a une anecdote assez marrante. C'est-à-dire que le matin même où on allait pour faire l'échographie, on l'a fait assez tôt pour vérifier. J'ai envoyé un message à Mika avec une photo de moi où on voyait un petit peu le ventre. Enfin... je ne sais pas si c'était vraiment les bébés, mais il y avait un peu le ventre qui sortait. Et en fait, je lui ai envoyé un message avec cette photo en disant « Tiens, regarde les jumeaux qu'on va rencontrer aujourd'hui. » Parce que du fait que Mika ait des parents jumeaux, on a beaucoup rigolé là-dessus. Et je lui disais « C'est sûr, on va avoir des jumeaux. » Bon, c'était à la base une blague. Et puis c'est vrai qu'à l'échographie, Mika a vu tout de suite. Bon, moi, j'ai vu rapidement, évidemment. Et en fait, première réaction, j'ai eu un fou rire, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est super marrant. Je lui envoie le matin même, on va voir les jumeaux. Et ce sont des jumeaux. Donc,
en fait, quand vous l'avez appris, finalement, il y a eu pas vraiment de la surprise, quoi. Finalement, c'était... qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez appris? Une confirmation?
Non, alors, il y avait quand même cette surprise, parce que même si on se dit forcément que ça peut nous arriver, et effectivement, on en rigolait beaucoup, et parce que les jumeaux dans l'inconscient collectif, c'est évidemment très mignon de voir deux petits bébés, deux petits frères, deux petites sœurs ou frères et sœurs, comme c'est le cas pour nous.
Après, on s'y attendait plus quand j'étais enceinte de Thelma, où là, on se disait, c'est sûr, on va avoir des jumeaux. Ouais. Là, un peu moins.
Là, un peu moins. Mais Clara a beaucoup ri, effectivement. Moi, je ne dis pas que je n'ai pas ri, mais j'ai tout de suite pris conscience du changement que ça allait être dans nos vies. En fait, immédiatement, peut-être le côté papa très pragmatique, mais... je me suis tout de suite dit, voilà, là, attention, là, on a deux enfants en même temps, on va passer de 1 à 3 enfants, il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées, plus sur l'aspect pratique.
T'avais une pancarte, j'ai l'impression, devant tes yeux, de famille nombreuse. Et ça, c'est le truc que Mika m'a dit le soir même, c'est, t'imagines, on devient une famille nombreuse.
Ouais, c'est vrai, en plus, vous êtes une famille nombreuse au sens administratif, en plus.
Et ça, c'est plus ça, toi, où t'as pensé à la logistique, alors que moi, pas du tout.
Oui, c'est marrant. Ouais, c'est ça. J'ai pensé à ce côté famille nombreuse, mais aujourd'hui, je suis le plus heureux des papas. Je l'étais aussi ce jour-là, attention, bien sûr.
Bien sûr, non, mais ça n'empêche.
Mais c'est vrai que tout de suite, j'ai pris un peu de recul sur les choses en me disant, attention, moi qui voulais des enfants, mais qui en voulais un ou deux, quoi. Et là, je me retrouve avec 3. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir gérer, mais c'est... Non, c'est
après, formidable. Moi, donc Mika est fils unique, et moi, j'ai 4 sœurs.
Ouais.
Donc, on est 5 filles. Donc, pour moi, famille nombreuse, c'est 5 enfants. Enfin, 5 enfants. Bien sûr, c'est à partir de 3. Donc, ça m'impressionnait, moi aussi, à juste titre. Parce que finalement, moi, j'avais connu. Donc, je savais tout le bonheur que c'était d'être une famille nombreuse. Mm. Et voilà, mais en tout cas, on était super contents. Et on avait un sourire... complètement figé, quoi. C'était incroyable.
Une super découverte. Et comment vous l'avez annoncé à Thelma, du coup, quand et comment vous lui avez expliqué qu'elle allait avoir d'un coup un frère et une sœur?
En fait, très rapidement après l'écho. On a quand même attendu, mais on va être honnête, on n'a pas attendu les 3 mois que tout le monde conseille.
Oui.
Mais qui attend 3 mois?
Oui, pour l'aîné, c'est vrai qu'ils se rendent compte quand même assez rapidement qu'il y a du changement.
C'est un changement de vie aussi, j'allais dire même immédiatement physique pour la maman.
C'est ça.
Elle a senti.
Et puis, voilà. Il y a ça aussi. Thelma le sentait, elle était un peu... alors qu'elle est très maman et très proche de Clara, effectivement, elle était plus dans le rejet des choses. Mm-hmm. Jusqu'à même, sans raison, taper dans le ventre, de colère. C'est des choses que n'a jamais fait Thelma en 4 ans et demi. Et,
Et je pense que... aussi, on a été alerté parce qu'elle changeait de comportement. Mm. Et du coup, on s'est dit, elle ressent. Et puis, j'ai beaucoup lu d'articles à ce sujet-là. C'est vrai qu'il paraît que les aînés ressentent. Mm. Et là, clairement, pour nous, Thelma l'a ressenti. Et il fallait la sortir de cette incompréhension, de cette colère qu'elle avait. Mm. Donc, à un retour d'école, un vendredi soir, on lui a annoncé... Et on lui a dit directement d'ailleurs qu'il y avait deux bébés, pour pas faire annonce et ensuite une autre annonce qui pouvait la perturber.
Oui.
Et on a d'ailleurs filmé ce moment.
On l'a gardé, on a filmé ce moment. Pour elle, je pense que c'est important. Et elle a, je pense, rapidement pris conscience, même si ça reste une enfant. Donc elle est parvenue dessus toute la soirée, elle est rapidement repartie à ses occupations. Est-ce que je peux regarder un dessin animé? Est-ce qu'on peut jouer à la poupée? Est-ce qu'on peut jouer à la maîtresse, etc. Mais au fond d'elle, elle nous en reparlait le lendemain, puis le surlendemain, tout petit peu. C'était par. Mais on l'a laissé, elle, indépendante à ce sujet, et on l'a laissé revenir vers nous plus que l'inverse. On ne voulait pas forcer le trait, mais voilà. Et puis les choses se sont faites après naturellement avec la grossesse, le ventre qui commence à arriver. Et puis on l'a aussi responsabilisé sur le choix des doudous, sur plein de choses, sur le choix des prénoms bien plus tard. Ah, qu'est-ce que tu penses de ce prénom et celui-ci?
On l'a vraiment inclus en fait dans cette grossesse qui arrivait, dans la démarche. Et voilà, bon, ça n'a pas toujours été facile. Le dernier trimestre, elle était très dure avec moi. Il y avait une grande peur, je pense. Ouais. J'ai beaucoup paniqué. J'avais d'ailleurs partagé sur les réseaux sociaux à ce moment-là. J'avais eu beaucoup de témoignages qui étaient très rassurants. Et il est vrai qu'à la naissance, tout s'est bien passé finalement.
Bon, super. Et on va justement parler du déroulement de la grossesse. Donc, Clara, mais bien sûr toi aussi, Mika, on va en parler ensemble. Comment ça s'est passé pour toi, cette grossesse géminaire? Est-ce que tu as senti une différence avec ta première grossesse? Voilà. Quelles sont les différences, en fait, que tu as pu ressentir entre ces deux grossesses?
Alors, la grossesse de Thelma, déjà, c'était la première. Donc, j'avais beaucoup d'interrogations. Je me rappelle qu'on se plongeait dans des bouquins avec Mika sur les applications. J'avais beaucoup de questionnements. On ne savait pas trop ce qu'était la vie de parent. Donc, c'était une grossesse qui s'est bien passée, mais qui était assez, assez stressante, pleine de questions. Celle de Pio et Lou, ça a été une grossesse beaucoup plus légère parce que on savait ce que c'était d'être parent. Donc évidemment il y avait ce côté gémellaire, mais par rapport au suivi en tout cas médical, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas un suivi particulier pour les jumeaux, si ce n'est qu'effectivement on a des échographies qui sont tous les mois, donc on voit un peu plus nos bébés, il y a plus de contrôle. Mais après justement moi j'étais assez surprise du fait que on nous parle pas vraiment de la gémilité. J'avais l'impression qu'à l'hôpital, les médecins, c'était comme la grossesse de Thelma, finalement. Donc, on avait pas mal de questionnements sur le côté jumeaux. D'ailleurs, tu peux peut-être parler de l'association qu'on vous a...
Oui, il y a une association, mais qui est très connue, qui s'appelle Jumeaux et Plus, en fait, qui organise elle-même l'association des réunions au sein de l'hôpital Necker. Pio et Lou, au même titre que Thelma, on est à l'hôpital Necker à Paris, ce qui nous a été conseillé pour l'arrivée de jumeaux, puisqu'ils sont spécialisés dans les grossesses gémellaires. Ça fait partie en tout cas de leur spécialité. Et c'est vrai qu'au travers de cette association-là et de une ou deux réunions, je crois, on a pu effectivement questionner certains médecins, les directeurs de l'hôpital, etc. Mais sinon, on n'avait pas énormément de réponses à nos questions. C'est-à-dire qu'en fait, on avait beaucoup de questions, mais on ne nous a pas forcément guidés en nous expliquant, Pio et Lou sont donc ce qu'on appelle communément des faux jumeaux, puisque garçon-fille, mais quelle différence entre monozygote, pas monozygote, comment ça peut se dérouler. Et puis, on sait aussi, mais par notre culture personnelle, que les jumeaux naissent bien souvent prématurés, avant terme, puisqu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au terme dans le ventre de la maman. Mais tout ça, il a fallu qu'on l'apprenne un peu par nous-mêmes. Alors après, c'est le rôle de parents, bien sûr, de se renseigner à tout point de vue, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un énorme suivi, hormis le fait d'avoir des échos plus rapprochés et de pouvoir voir nos bébés plus souvent. Il n'y a pas eu un suivi, mais peut-être aussi que justement la grossesse s'est bien passée et que ça explique le fait qu'il n'y ait pas eu de suivi particulier. Et tant mieux, puisque les deux vont très bien. Mais
finalement, c'était une bonne chose qu'il n'y ait pas tout ce truc autour des jumeaux. Finalement, la grossesse, elle s'est passée déjà beaucoup plus sereinement parce que je crois que aussi j'étais mieux dans mes baskets, que je savais ce qui nous attendait, que voilà, on était tous les deux, que Thelma avait 5 ans, donc on avait quand même une expérience hyper enrichissante.
Oui.
Et en fait, voilà, ça a été une très jolie grossesse. Il n'y a pas eu de soucis particuliers, donc. Donc voilà, mais sinon, voilà, j'ai trouvé la grossesse de Thelma plus compliquée que celle des jumeaux, en fait.
Oui, parce que c'était l'inconnu. Là, du coup, t'étais préparée. Finalement, en fait, toi, en termes de sensations, il n'y a pas de sensations. Non, je sais pas, ça m'intrigue, il n'y a pas de sensations différentes. Ou est-ce que tu sens vraiment les deux bébés, tu vois?
Alors moi, j'ai beaucoup senti Pio dans mon ventre.
Ah, tu savais lequel c'était?
Ouais, parce que du coup, ils n'ont pas bougé de toute la grossesse. Enfin, d'accord. En tout cas, à partir du moment où on a vu où ils étaient vraiment. Et en fait, Pio bougeait énormément. Donc je pense que Lou s'est pris des coups, mais pas possible. Lou, elle était plus discrète. Ouais. Et d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc c'est marrant, il y a une personnalité dès le début. J'ai senti, j'ai pris moins de poids pour les jumeaux que pour Thelma.
Ah, c'est marrant. Alors, ça, moi, c'est incroyable.
Moi, j'ai pris beaucoup pour chaque grossesse. J'ai pris 27 pour Thelma, j'ai pris 22 pour les jumeaux.
Ouais.
Donc oui, il y a le côté du ventre où forcément, en fait, c'était tout aussi gênant pour Thelma parce que j'avais beaucoup pris.
Ouais.
Il y avait plus de coups. Alors, est-ce que c'est le côté petit garçon? Peut-être, j'en sais rien. Peut-être que c'est pas qu'une rumeur. En tout cas, il était beaucoup plus actif dans mon ventre.
Je suis enceinte d'un garçon, je confirme. Ah. Ça bouge beaucoup plus par rapport à ma fille, donc c'est voilà. Peut-être ça, tu vois. Donc, et du coup, alors en fait, pendant cette grossesse, comment vous avez appréhendé l'arrivée des jumeaux? Parce que du coup, toi, tu parlais, Mika, tout à l'heure, de la transition vers la grande famille. Est-ce que, est-ce que vous avez eu des craintes particulières par rapport à une grossesse, je dirais, classique? Enfin, en tout cas, pas de jumeaux, quoi, non gémellaires. Ou est-ce que, en fait, vous aviez juste la préparation habituelle? Enfin, voilà, que c'était quoi vos réflexions?
Alors, encore une fois, moi, je crois que c'était plus sur la partie vraiment organisationnelle et logistique de vie de famille. Aujourd'hui, on est, au moment où on se parle encore dans notre appartement, je dis encore parce qu'on a pour projet de partir, mais on est dans un appartement donc parisien, avec deux grandes chambres, et c'est vrai qu'on n'avait jamais forcément imaginé partir d'ici. On y est très bien, Thelma a son école à 20 mètres de la maison, et voilà. Et avec l'arrivée d'un enfant, finalement, on aurait pu très bien rester, on aurait pu rester ici des années, 10, 15 ans. Enfin, ça se fait beaucoup, deux enfants dans la même chambre, surtout dans des villes comme Paris. Et on n'a pas tous des appartements de 200 mètres carrés, ça reste compliqué. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des jumeaux, ça a changé beaucoup de choses. Mais jusqu'à le changement de voiture,
ça a été un grand sujet. Parce que pour trouver une voiture où tu peux mettre trois sièges auto en isofix avec une super sécurité essentielle pour les enfants. Mais ça a été, j'ai l'impression qu'on a cherché une voiture, mais pendant des mois.
Ouais, c'est vrai que c'est plus ça, plus que l'arrivée finalement de deux enfants en même temps. Moi, je dirais que ce qui a plus bousculé les choses, c'est de passer de 1 à 3. En fait, c'est pas tant avec l'arrivée de deux enfants, parce que, alors, on a été très, on va en parler tout à l'heure, mais les premiers mois, on a été, nous, très sereins.
Ouais.
Mais très sereins à l'idée d'arriver des jumeaux, en se disant, voilà, Pio et Lou vont arriver, on est deux, ils sont deux, on est armés, on vous attend, il n'y a pas de souci, quoi. On est équipés pour les biberons, vous en faites pas. Mais c'est vrai que c'était, moi, je dirais que... En fait, le stress arrivait plus sur la partie « mince, comment on va faire pour vivre dans cet appart ?» Si on doit déménager, où doit-on déménager? On a cherché une maison, on a fait beaucoup de recherches, et finalement, pour revenir en arrière et rester dans l'appart, changer cette voiture, et puis changer beaucoup de choses, en fait, dans notre vie. Mais je dirais que c'est plus à ce niveau-là, parce que, moi, j'avais pas d'inquiétude sur le fait de pouvoir aimer trois enfants. On se pose la question à un moment, de se dire « est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que j'ai un cœur assez gros pour pouvoir donner autant d'amour à trois enfants ?» Mais c'est de l'amour tellement différent et tellement fort pour les trois que ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Donc je dirais que c'était plus sur la partie logistique. C'est très chiant, mais c'est vrai. C'est vraiment des vraies questions de parents.
Il y a eu la partie, c'est vrai, appartement, voiture, toute cette logistique, de la panique de trouver des places en crèche aussi, en se disant « mon Dieu, il y en a deux ». Et en fait, il y a eu aussi une panique du changement de vie, de passer de 3 à 5.
Oui.
Et c'est vrai que ça, c'était plutôt sur la fin de la grossesse. On s'est beaucoup interrogé en se disant, est-ce que nos voyages vont être les mêmes? On adore partir en week-end, voyager. Est-ce que financièrement, on va s'en sortir avec trois enfants? Et on a eu ce petit moment à la fin où on s'est dit, attends, mais à quel moment on va se retrouver des moments à deux, des moments Est-ce que, enfin, si, il y a eu quand même pas mal. En fait, c'est un énorme changement.
Ouais, bien sûr.
Mais c'est peut-être que de passer de 1 à 2, c'est pareil. Ouais. Mais voilà, c'est plus tout organisé. Et puis finalement, la finalité, c'est que tout le monde trouve ses marques et que et c'est sain d'avoir des craintes,
des questionnements. Bien sûr. Ouais. Et justement, par rapport au fait que ce soit une fille et un garçon, parce que du coup, c'est des jumeaux, est-ce que vous pensez que ça a changé quelque chose pour vous par rapport au fait de potentiellement d'avoir des jumeaux qui sont du même sexe? Est-ce que à la fois ça vous a mis plus à l'aise ou est-ce que ça vous a peut-être plus angoissé? Voilà. Comment alors, vous avez appréhendé ça, en fait?
Alors,
on a un peu gagné au loto, quand même. Ouais. Ouais, six garçons.
Là, pour le coup, je dois avouer que... Non, dans notre fantasme le plus grand, avant d'avoir l'écho déterminante pour les sexes des enfants, même si on ne sait jamais vraiment si elle est déterminante, parce que bien souvent...
C'est à quel moment? C'est comme tout le monde, en fait?
C'est avant. C'est à 4 mois, en fait. Ah ouais. Tu as des échographies tous les mois.
Oui, du coup, tu sais
plus. Et donc,
du
coup, à 4 au lieu de 5.
Ouais.
Ouais.
Tu gagnes un mois.
Gagné un mois. Mais c'est vrai qu'en y allant, on s'est dit... Honnêtement, au fond, nous, comme tous les parents le font, on n'ose pas le dire aux proches, mais on se dit, allez, on rêve de quoi? Un garçon, une fille? Et c'était vraiment ce dont on rêvait. Et lorsqu'on nous a dit garçon-fille, je dois dire qu'on était vraiment très heureux. Et voilà, on avait déjà une fille, donc une fille aînée. Moi, je fais partie de ces papas qui adorent l'idée d'avoir des petites filles. Mais je dois avouer que je suis quand même content d'avoir le petit mec qui est là. On résiste, on est deux c'est mecs, avec trois nanas à la maison.
Tu t'aurais été en grosse minorité, là.
Mon beau-père, c'est son cas.
Oui, c'est vrai.
Il est père de cinq filles et ça a été, il a été accompagné de six femmes toute sa vie. Et c'est,
Moi, l'arrivée de Pio dans la famille, c'est incroyable parce que j'ai une sœur aînée qui a eu une fille également. Moi, j'avais eu Thelma. Et donc, du coup, enfin, un garçon dans notre famille.
C'est le roi, quoi.
D'accord.
Après, moi, sur le côté fille-garçon, moi, j'ai beaucoup aimé aussi en pensant à eux, en me disant que, c'est peut-être... Je sais pas, en fait, si c'est facile d'avoir une sœur jumelle, je m'imagine, parce que je me dis qu'on est quand même sans cesse peut-être comparés. On n'a pas forcément les mêmes personnalités. Et en fait, je me dis, ça leur permet aussi d'avoir une identité... à chacun, en fait, finalement, on a une fille, un garçon. Et moi, c'est ce qui a fait aussi que je me considère pas tant que ça maman du jumeau. Donc, Mika, énormément. Et moi, en fait, j'ai un peu du mal à capter que je suis dans cette bulle des mamans de jumeaux. Je me vois vraiment maman de trois.
D'accord.
Et peut-être parce que c'est fille-garçon. Justement, je pense que ça m'aide à
appréhender ça.
Ça me fait penser peut-être un peu plus comme ça,
Et alors après, du coup, on va parler de la transition vers leur arrivée. Comment ça s'est passé, en fait? Est-ce qu'ils sont nés à terme? Parce que des fois, en fait, on entend souvent que les grossesses géménaires, souvent, en fait, ils naissent prématurément. Donc, vous, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils sont nés à terme? Est-ce que l'accouchement était prévu? Voilà.
Alors, on avait une...
Voilà. Vas-y.
Ils sont nés à 35 semaines et 2 jours. Donc, moi, j'avais une date de rendez-vous qui était 2 semaines après, au cas où, il n'y ait pas eu de naissance à ce moment-là. Puisqu'effectivement, quand on est enceinte de jumeaux, on accouche avant. Parce que, notamment, il manque de place dans le ventre et voilà. Et donc, du coup, ça a été un accouchement surprise parce que c'est des contractions qui m'ont menée... à l'hôpital, donc, c'est eux qui ont choisi leur date.
D'accord, donc c'était pas prévu, en fait.
Non, le jour de l'accouchement n'était pas prévu.
D'accord.
Non, on avait une date qu'on avait en tête, qu'on n'a pas voulu communiquer à nos proches, d'ailleurs, pour garder ce côté surprise.
Ouais.
Parce que finalement, si on dit à tout le monde, en fait, c'est prévu pour tel jour, c'est...
Ouais, c'est vrai.
Ça manque un peu de magie. Et puis finalement, la magie a opéré, puisqu'ils sont nés, effectivement, 2 semaines avant le terme qui était prévu. Pas le terme de 9 mois, mais le terme gémellaire.
Ce qui était très sympa, c'est que en fait le jour même, on était dans un hôtel avec Thelma et on avait décidé de faire un petit hôtel proche de Paris à Troyes avant la naissance des jumeaux pour lui consacrer un moment et puis on était contents aussi de se retrouver à Troyes une dernière fois et en fait ils sont arrivés la nuit quand on est rentré de cet hôtel et puis ils sont arrivés donc on a eu notre moment qui était prévu avec Thelma.
Génial.
Et puis ce qui est quand même la grosse anecdote de cette naissance, c'est que Donc Pio et Lou sont nés le 22 juillet, mm-hmm. Bon, le même jour que mon père, ça c'est pas la grosse anecdote, mais c'est quand même assez rigolo.
Ouais.
Mais ils sont surtout nés le jour où Thelma partait en vacances pendant une semaine à Marrakech avec sa grand-mère, avec la mère de Clara.
Mm-hmm.
Vacances qui étaient prévues puisque le terme arrivait l'été, donc on n'avait pas pu prévoir de réelles vacances loin de Paris. Et voilà, c'était un peu compliqué de le prévoir, donc on voulait pas priver Thelma d'une vraie belle semaine de vacances, donc il était convenu qu'elle parte une semaine avec sa mamie à Marrakech. Et Clara est partie aux urgences, je l'ai rejointe plus tard, mais elle est partie aux urgences la veille au soir du départ, et Thelma prenait l'avion je crois à 10-11 heures du matin.
Ouais.
Et là il s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on annule les vacances de Thelma pour qu'elle puisse rencontrer son frère et sa sœur, et on la prive entre guillemets de cette semaine de vacances, mais pour le plus beau cadeau du monde, ou est-ce qu'on la laisse partir? Et finalement on a décidé de la laisser partir, et ça a été je pense la meilleure décision qu'on ait prise, puisque l'arrivée de jumeaux, tout allait bien à la naissance, mais voilà, c'était des petits bébés, donc il fallait un peu les surveiller, etc. Et je pense qu'on aurait malheureusement pas pu faire autrement que de se concentrer sur eux et pas sur elle, et je pense que ça aurait été un moment plus difficile pour elle. Là elle a pu les rencontrer, faire sa semaine de vacances,
timing parfait quoi,
timing parfait.
Et puis Mika a pu l'appeler quand elle était à l'aéroport, donc pile après l'accouchement, elle avait pas encore décollé, et Mika l'a appelé du coup en FaceTime quoi, en caméra, et elle a une super réaction. Alors moi j'étais pas là à ce moment-là, mais ma sœur qui prenait l'avion avec Thelma a filmé la réaction de Thelma, donc j'ai le souvenir aussi. Et en fait, elle a super bien réagi, et elle était aussi contente de partir en vacances. Donc moi, c'était ma hantise qu'elle parte en vacances et que j'accouche cette semaine-là. Bah ça a pas loupé.
C'est marrant. Ouais.
J'ai accouché le matin où elle est partie, et c'est vrai que comme ils sont nés quand même prématurés, même si c'était pas de la grande prématurée, ils ont eu besoin de quelques soins. Et donc pendant la semaine à l'hôpital, qui était initialement notre semaine sans enfant, Thelma part en vacances, on se repose une semaine avant l'arrivée,
on se retrouve.
En fait on a pu bien s'occuper de Pio, de Lou, il y a eu aucune visite. Thelma a été la première visite, donc ça on a vraiment voulu attendre, donc c'est Thelma qui a rencontré en premier son frère et sa sœur.
Ah super. Et alors du coup ils faisaient combien en fait, ils pesaient combien à leur naissance?
2 kilos chacun, 2 kilos 100, 2 kilos 3.
Donc c'était ça.
C'était des petits bébés, mais pas non plus.
Non, ça va, ça voilà. va. Ouais, ouais.
Et vous avez pu rentrer au bout de combien de temps? Alors du coup ils sont restés sous surveillance pendant combien de temps?
Une semaine en fait.
Une semaine.
Voilà, une semaine, chacun à leur rythme. Alors ils se tiraient un peu la bourse, c'est marrant d'ailleurs parce qu'un coup c'était Pio qui régulait bien sa température, et là ça va parler aux parents qui ont connu ça. Voilà, c'est pas grand chose, mais qui sont dans les petites couveuses où ils n'arrivent pas à réguler, et puis d'un coup Pio il y arrivait, alors on était waouh super, et puis le lendemain c'était Lou qui arrivait mieux que lui, alors on dit oula maintenant il se tire la bourre. Voilà, ça a duré une semaine, et
retour a été marrant aussi, parce qu'encore une fois le retour s'est axé sur Thelma. Tu sais, on a pu je suis sortie de l'hôpital avant les bébés, donc ça a été super dur parce qu'ils avaient encore besoin de soins, donc je suis sortie avant les bébés, et en fait il se trouve que le jour de ma sortie c'était le jour du retour de Thelma.
D'accord.
Et donc du coup avec Mika on a été à l'aéroport chercher Thelma, on avait un petit ballon bleu et rose, une petite pancarte, et on a passé du coup une nuit, donc on l'a emmenée au fast-food quand elle est rentrée, on a dormi tous les trois, et on a eu un autre moment à trois avant le lendemain d'aller chercher les petits.
Ils sont sortis le lendemain, les petits.
Ils sont sortis le lendemain finalement. Du retour de Thelma,
C'est timing, vous l'avez fait exprès,
c'est
pas possible.
Voilà, c'est ça. Si on avait pu le scénariser, on l'aurait scénarisé c'est comme fou. Ça, en fait. Ouais, c'est incroyable.
C'est
on a
incroyable.
Eu beaucoup de chance là-dessus.
Ouais. Et du coup, alors là, on va parler du retour à la maison. Comment ça se passe les premiers mois, les premiers instants, en fait, un peu vertigineux quand on rentre avec un bébé. Donc j'imaginais que deux bébés à la maison, comment ça se passe, quoi?
Bah, le retour, on est quand même un peu fatigué de la semaine, de l'accouchement. C'était une semaine de canicule en plus, donc à Paris, c'est vraiment pas agréable. Le retour, on était contents de rentrer à la maison. Enfin, moi, j'ai toujours aimé ce retour à la maison. Je trouve qu'à la maternité, on est... Voilà, il y a sans cesse quelqu'un qui rentre dans ta chambre, t'as des visites qui sont fatigantes, donc je trouve qu'on est quand même mieux à la maison. Le retour... Moi, j'ai voulu organiser une séance photo parce que je voulais absolument des photos de mes bébés tout petits. Je suis super contente, on a des super souvenirs, mais on était KO, donc c'était une très mauvaise idée de le faire aussi vite. On a pris nos marques assez vite. Mmh. Le premier mois était plutôt cool, en fait.
C'est ce que j'allais dire. On a fait un peu les malins. En fait, ouais. On est rentré et on avait oublié qu'un bébé, et surtout, genre, je ne sais pas si c'est symptomatique du tout des bébés... J'ai encore une fois né avant terme parce que prématuré, bon, ça, voilà. Mais je ne sais pas si c'est symptomatique de leur âge ou de leur poids. Donc, en fait, il fallait les nourrir régulièrement. Mmh. Donc, du coup, ils dormaient beaucoup, etc. Et c'est vrai qu'on a fait un peu les malins parce que le premier mois, on a été super étonnés. Alors oui, il y a un rythme qui est compliqué, un biberon toutes les 3 heures, fois 2. Mmh. Donc ça fait beaucoup de biberons par jour.
Ouais.
Ça fait 8 biberons par bébé, si
beaucoup
je ne me trompe pas.
Donc, de couche.
Voilà, ça fait 16 biberons au total par jour. Alors c'est vas-y, fais le prochain, je fais celui d'après. Le début est compliqué, mais malgré tout, on était déjà sur notre petit nuage, bien sûr. Et puis on a fait un peu les malins, on a invité des amis à la maison, on a commencé à faire des présentations aux proches, et puis on ne s'arrêtait pas, en fait. On faisait une soirée, puis le lendemain on disait ouais, viens, on invite un tel, et puis en fait on a eu, j'irais au un mois, le truc est retombé. En fait, ça a été un coup de massue parce que déjà la fatigue s'est accumulée, la fatigue physique, fatigue morale aussi, parce que on redescend petit à petit de notre nuage et on devient là dans le concret. On est parents vraiment de 3 enfants. On est en plein été encore, donc la grande qui veut, il fait 30 degrés, papa, j'ai chaud, la piscine, la plage, et pourquoi on va pas se balader? On va pas se balader parce qu'on est fatigué et c'est compliqué. En fait, c'est ça qui est
Thelma est en vacances, donc on n'a pas eu le retour à la maison avec la grande qui est à l'école, avec son rythme. C'est qu'on était vraiment à 5 dans notre appartement parisien où il faisait hyper chaud, et on était à 5
tout le temps.
On a fait quelques sorties, mais et puis nous, on mourait d'envie de partir en vacances avec Mika. Et en fait, c'est vrai que le premier mois, super, on a vu un peu ça aussi pour Thelma. Je crois qu'on est sur un nuage le premier mois. Et puis le deuxième mois, il y a une fatigue qui s'est accumulée.
Ouais.
T'as plus franchement envie d'avoir des visites à la maison. D'ailleurs, on a freiné d'un coup parce que c'était pas possible. En fait, on était trop fatigués pour ne serait-ce que débarrasser un apéro, quoi. Enfin, et en fait, le deuxième mois... les nuits, ça a été compliqué, quoi. Moi, je me rappelle de nuits où on est dans le canapé à pas d'heure, on regarde tous les programmes télé pour survivre aux biberons. On fait que laver des biberons, donc juste faire la vaisselle de ces biberons, t'en peux plus.
Ouais, c'est clair.
Et puis, t'es fatiguée, donc t'es un peu irritée, donc tu te comprends pas forcément dans ton couple, même si on s'est beaucoup épaulé. Moi, j'ai toujours... était un peu dans un concours de oui, mais c'est moi qui fais plus les nuits et moi je fais plus. Et puis du coup, on se dispute pour des choses.
Oui.
Mais finalement, en parlant avec des copines, ça arrive à plein de mamans. Il ne faut pas s'inquiéter de ça, justement. Moi, j'aimerais aussi le dire. C'est normal aussi qu'il y ait des tensions avec la fatigue dans le couple ou avec les aînés.
Bien sûr.
Et tout redescend. Et finalement, tout redevient normal et puis on se comprend mieux. C'est dur, le manque de sommeil. Franchement, c'est dur. Et puis, le fait d'en avoir deux, c'est... Quand on se lève pour les biberons, faut donner 2 biberons, faut changer 2 couches. Donc, c'est presque 1 heure de temps.
Ouais.
Puis après, on se recouche 2 heures et puis on doit se relever. Et en fait, c'est un cercle infernal. On fait que ça de toute la journée. Donc, c'est hyper... c'est une logistique qui est assez folle. Et puis, nous, on n'a pas été aidés les nuits aussi. Donc on s'est débrouillé comme beaucoup de parents d'ailleurs.
En fait, moi je pense que c'est comme l'arrivée d'un enfant. Donc c'est x2 bien sûr. Donc la différence c'est juste que effectivement quand un enfant arrive, en général il y en a un qui s'en occupe et l'autre peut effectivement se reposer. Là c'est pas forcément le cas sur l'arrivée de jumeaux parce que forcément nécessairement il y a 2 enfants dont il faut s'occuper et qu'on peut pas toujours s'occuper seul de 2 enfants, donc il faut bien souvent être à 2, et c'est là où le repos se fait rare, que la tension monte effectivement, mais...
Il faut parler des horaires aussi, je pense.
Moi, j'ai des horaires un peu particuliers quand j'ai repris le boulot. Je travaille très tôt le matin en matinale radio, donc à 4h30, 5h15, en gros, je pars de la maison. Clara se retrouve seule avec les enfants, et moi, je rentre vers en milieu de journée, à l'heure du déj. Et c'est vrai que... En fait, mais je pense que c'est propre à chaque rythme et à chacun. En fait, Clara, qui est à son compte, n'a pas pu breaker non plus trop longtemps, puisque étant à son compte, c'était compliqué. Elle n'a pas pu avoir un congé maternité gémellaire classique qui dure...
6 mois.
Qui dure presque 6 mois, je crois.
Que ça dure même plus que ça quand tu as déjà eu un aîné. Je crois c'est bien 9 mois. Enfin, je ne suis pas sûre exactement, mais c'est pas mal.
C'est long, quoi.
Mais du coup, Clara a dû reprendre rapidement. Moi, j'avais repris le boulot. Donc, c'est un rythme qui crée de la fatigue naturellement parce qu'on se lève à 4h du matin.
Bien sûr, ouais.
Donc, on rentre, on a envie de se reposer, mais c'est pas possible parce qu'il y a deux petits bébés qui sont là et qui sont hyper mignons et qu'on aime très fort, mais qu'on adore quand ils dorment aussi, là, ouais, à ce moment-là précis, clair. En se disant non, ils sont réveillés, ils hurlent, ils ont faim, et voilà. Mais je crois que, voilà, très franchement, c'est un rythme qu'on a eu. On a connu ça avec l'arrivée de Thelma, donc je dirais pas que c'est spécifique à l'arrivée de jumeaux. Je pense que c'est l'arrivée de chaque enfant, ça perturbe. Et il faut pas avoir peur de se dire les choses. Oui, ça perturbe un couple, une routine, forcément et nécessairement, puisqu'on a des petits êtres qui arrivent dans une maison, qui sont là, qui sont magnifiques, mais qui ont faim, qu'il faut changer. Il faut doucher, baigner, soigner quand ils sont malades, aller chez le pédiatre, faire les allers-retours, parfois aller à Necker quand on a peur de quelque chose et c'est pas grand-chose. Et comme tous les parents, on va à l'hôpital pour rien et on revient et tant mieux. Et en fait, voilà, c'est les perturbations d'avion. Moi, franchement, j'apparenterais ça à ça. Le vol se déroule très bien et à un moment, il y a pendant 20 minutes, l'avion qui bouge un peu, c'est pas très agréable. Et puis après, tout redevient comme avant et tout va bien, on arrive à destination. Et puis là, aujourd'hui, je trouve que voilà, ils ont 6 mois. On a trouvé notre rythme de croisière depuis quelques semaines, voilà, on va dire.
Ils font leur nuit déjà?
Ils font leur nuit,
ils font bien leur nuit.
Ils font bien leur nuit, alors il y a toujours le petit réveil de la tétine, et puis on aimerait inventer cette machine qui leur met toute celle de la tétine, mais ça n'existe pas. Mais bon, franchement, quand on y va et qu'on voit Lou ou Pio qui sont là, qui se tapent un petit fou rire parce qu'à 3h du mat', ils nous ont réveillés, qu'on remet la tétine, c'est pas très contraignant, quoi.
Puis surtout, moi, quand je me lève la nuit, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de réveils, tétine ou besoin de réconfort, à chaque fois, je me dis, t'imagines, avant, tu te levais, puis ça durait 45 minutes. Là, vraiment, tu fais l'aller-retour, tu retournes te coucher.
Ouais, c'est le luxe, quoi.
Ouais, en fait, c'est le luxe, donc je ne me plains plus, c'est pas grave.
Mais déjà, en fait, au niveau logistique, est-ce qu'ils étaient synchro? Parce que j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas, en fait.
Alors, c'est pas toujours le cas. Nous, on nous l'avait conseillé à Necker.
De forcer le truc pour qu'il soit synchro.
Ouais, tout à fait, justement, parce que... Et c'est vrai que ça paraît très logique quand on le dit, parce que finalement, quand si c'est le biberon à 16h, par exemple, pour les deux en même temps, c'est 16h, ça dure 40 minutes, un peu compliqué, parce que biberon, parce qu'il y en a qui veut pas, on change et tout, mais à 16h45, je grossis le trait, mais on les recouche, c'est fini, jusqu'à 19h, alors c'est pas à gagner non plus pour 10h, mais... Au moins, il y a ce temps. Parce que si on décale d'une heure, c'est terminé. On n'a plus jamais de temps libre. Alors si, honnêtement, des parents de jumeaux nous écoutent et après, chacun fait évidemment comme il le sent. Il n'y a pas de bonne solution et je pense qu'il n'y a pas de bonne méthode.
Moi, je conseille quand même de caler. Franchement, j'ai essayé une nuit en me disant « Bon, Lou, elle dormait un peu plus que Pio. » Et puis, je la laisse dormir. Et puis, en fait, je me suis recouchée et 20 minutes après, c'était reparti pour un biberon. Pour gagner en sommeil, je trouve qu'il vaut mieux les caler. Après, à un moment, il y en a peut-être un qui va faire ses nuits avant. Donc là, effectivement, il faut rester attentif et voir. Il y en a peut-être un qui a besoin de dormir et c'est pas la peine de le réveiller. Mais globalement, quand on les réveillait un petit peu, ils n'étaient pas contre un biberon. Donc, on n'avait pas non plus l'impression de les sortir d'un sommeil incroyable. Donc, moi, je conseillerais quand même de caler sur le même rythme, c'est plus facile.
Et vous vous leviez tous les deux, par exemple, la nuit? Ou alors, est-ce que c'était un qui faisait les deux biberons l'un après l'autre? Ou comment ça se passait?
Franchement, je crois qu'on a tout essayé. On a essayé les nuits solo en se disant, vas-y, tu fais tous les biberons de cette nuit, je me fais une grosse nuit. Mais en fait, la grosse nuit n'existe pas parce que on entend et puis on sent bien que l'autre galère dans le salon tout seul avec les deux. Donc, on se lève et on y va. On a essayé un biberon sur deux, on a essayé le deux biberons sur deux. Je crois qu'on a tout essayé. Il n'y a pas de vraie bonne méthode.
Après, les biberons, la nuit, on les a très rarement donnés à deux. En général, quand même, l'autre dormait. Non, franchement, on était plus seuls et puis c'était très bien parce que ça permettait d'avoir un temps de sommeil plus long. Donc, je dirais qu'on a plutôt alterné au niveau des nuits. Après, quand Mika a repris le boulot, parfois, c'était bien parce qu'il partait au boulot et puis à 3h30, il y avait un biberon, donc c'était génial, il le donnait. Et puis après, il partait bosser et moi, je pouvais dormir jusqu'au prochain. Et puis, il fallait emmener la grande à l'école, donc il fallait quand même avoir un petit peu de force le matin. Surtout que pour emmener la grande à l'école étant seule, il faut que je trimballe les deux bébés.
Donc, c'est assez sportif.
Ouais. Après un moment j'ai pris le relais sur les nuits et puis en fait à un moment j'ai dit à Mika c'est pas possible, je suis trop fatiguée, donc il est revenu sur les nuits. Bon, on a un peu tout essayé, je crois que faut tester plusieurs méthodes
et puis il faut s'écouter. S'il y en a un qui est épuisé, faut faut se dire les choses, je sais qu'on est très long sur cette réponse, mais factuellement,
non,
je dirais
que... Non, mais c'est intéressant, parce que...
Honnêtement, il faut pas avoir peur de dire à l'autre, écoute, là, je suis vraiment au bord, c'est-à-dire que j'ai franchi la ligne, c'est-à-dire que là, je peux plus, je suis épuisé moralement, même plus physiquement, c'est-à-dire que moralement, je... Et ça arrive à tous les bons parents ont forcément, à un moment, été fatigués. Il n'y a pas, je crois... de parents idéaux, ça n'existe pas, ça c'est dans les pubs Kinder, ça n'existe pas, on est tous fatigués, c'est légitime d'être fatigué avec les vies qu'on mène, le boulot, etc. Ou peu importe d'ailleurs, juste d'être parent, c'est pas un métier, mais ça pourrait l'être.
Ça pourrait l'être, ouais.
Et donc c'est juste humain et légitime d'être fatigué, et ça on se l'est dit, à un moment on s'est dit, écoute, il faut se le dire, disons-nous les choses, si à un moment on n'y arrive plus, et je sais que c'est déjà arrivé... Moi, je l'ai déjà dit à Clara, et inversement, Clara me l'a déjà dit, écoute chérie, je ne peux pas. C'est-à-dire que je suis épuisé. Mais je parle de ça la nuit, quoi, quand il est 2h30, 3h, et qu'il se réveille.
Les discussions à 3h autour des biberons.
Ouais, mais en fait, il faut se dire les choses, et puis pas rentrer en compétition, compter, à se dire, ah ouais, bah moi j'ai fait celui d'avant, c'est pas grave. Si je veux dire, enfin, sur le moment, on n'a pas envie, on comprend l'autre, on se dit, ok, d'accord, elle est épuisée. Si elle me le dit, c'est que là, elle ne peut pas, donc j'y vais. Voilà, je serai un peu plus fatigué demain, mais c'est pas grave. Et puis peut-être que demain, je serai content, moi, au moment où je suis très fatigué, de pouvoir lui dire, écoute, et puis se laisser du temps à chacun aussi pour, pas sortir jusqu'au bout de la nuit, forcément. Enfin, peu importe, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est bien aussi de réussir à avoir un peu de temps libre chacun, seul.
Ça, on va en parler, ouais.
Pouvoir revenir à son rôle de parent par la suite.
Ouais. Et en fait, comment vous faites pour que chacun trouve sa place? Parce que quand même, j'imagine que c'est assez chronophage. Donc comment vous avez réussi à gérer par rapport à votre aînée quand même, qui a 5 ans, pour qu'elle trouve sa place aussi dans cette période de jumeaux nourrissons, quoi?
Bah, en fait, je crois que c'est ça le plus difficile. Enfin, en tout cas, personnellement, je dirais que le plus difficile pour nous, c'est pas tant l'arrivée des jumeaux et de Pio et de Lou, mais ça a été surtout de rester concentré sur l'aînée, sur Thelma. Parce qu'elle est à un âge, à 5 ans, où elle sollicite beaucoup. Elle a toujours eu l'habitude de solliciter, puisqu'elle était fille unique jusqu'à l'arrivée de son frère et de sa sœur. Donc on a toujours beaucoup joué avec elle, on a toujours été très fusionnels avec elle, tous les deux. Et ça a été ça le plus évident. Après, garder sa place, c'est... tellement de multi-relations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec 3 enfants, on a d'abord une relation de couple, bien sûr, mais ensuite une relation avec Thelma, puis tous les deux on a une relation avec aussi chacun des jumeaux, avec Pio, avec Lou, puis les enfants entre eux, et puis nous avec chaque enfant. En fait, si on devait compter, on aurait 20 relations dans cette famille, mais c'est super difficile.
Ouais. Après moi je dirais que déjà la très belle surprise qu'on a eue, c'est que Thelma a très bien intégré le fait d'être grande sœur, et depuis 6 mois, elle n'a pas exprimé le moindre rejet. Même un agacement, il pleure. Enfin, vraiment, c'est d'une facilité. Ça a été vraiment la grosse et belle surprise de la naissance de Pio et Lou. Après, sur le rythme pour chacun, c'est vrai que les jumeaux, on les met un peu comme un duo, quoi. Quand on joue avec les deux. Quand on donne les biberons, on donne aux deux en même temps. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu duo que Thelma n'a pas eu forcément en étant seule. Moi, c'est un petit peu un regret que je peux avoir. C'est-à-dire qu'il y a la relation avec Thelma, il y a la relation avec Pio et Lou. Et pour l'instant, on est encore trop dans la logistique pour que chacun... et vraiment du temps. Et après, une relation qui est peut-être la plus importante, c'est la relation du couple, parce que si des parents sont sereins et s'entendent bien, ça se ressent dans toute la famille. Donc ça, on a beaucoup fait garder les enfants, et on s'est fait énormément de restos, de sorties en couple.
Super.
Par rapport à Thelma, beaucoup plus d'ailleurs. Moi, j'étais plus à l'aise de laisser mes enfants avec Thelma. J'avais plus de recul sur le fait de faire garder des enfants, finalement. Donc, on n'a jamais culpabilisé de laisser nos enfants. Et on s'est fait pas mal de sorties. Alors, on ne sort pas non plus forcément toutes les semaines. Et ça a été vraiment un coup de boost pour l'équilibre de la famille, finalement. Et je pense que c'est nous, le pilier. Notre humeur... moi, quand je suis stressée, mes enfants sont stressés. Quand je suis pas bien, mes enfants sont pas bien. Et en fait, c'est des éponges. Et ça, c'est vraiment... même dans les premiers mois, quand on est un peu stressé, on a eu des moments où les enfants, c'était dur, mais parce que nous, on était stressés. Bon, après, on était fatigués, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais je dirais qu'on fait très attention à la relation de couple pour avoir une belle harmonie familiale.
Ça, c'est intéressant. Et justement, j'allais vous parler de la nature de votre relation avec les jumeaux, mais donc tu m'as un peu répondu, c'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, vous pouvez, est-ce que vous avez l'impression, en plus, le fait que ce soit une fille et un garçon, d'avoir une relation différente à Lou, une relation différente à Pio, ou est-ce que, voilà, c'est comme tu
moi,
disais...
Moi, je trouve que c'est encore...
un duo,
après,
quoi.
Après, voilà, je suis curieuse de savoir ce qu'il répondra à Mika, justement, mais pour moi, malheureusement, c'est encore trop une vague de logistique pour... Et puis en plus, moi, quand j'ai Pio dans les bras, je me dis « Ouais, mais j'ai pas Lou dans les bras. » Donc en fait, donc je prends Pio.
Oui, tu veux pas faire de...
Je le repose et puis je prends Lou. Et donc c'est très équitable à chaque fois. Et je fais hyper gaffe à ça. Donc du coup, bah, ils ont le même temps avec moi, entre guillemets.
Ouais.
Alors, je te rejoins. C'est difficile aujourd'hui d'avoir une relation... Mais parce qu'ils sont petits, je dirais simplement, c'est ça en fait, c'est qu'ils ont 6 mois, ils échangent beaucoup, ils sourient beaucoup, mais je trouve que chacun est tellement différent que les relations du coup sont différentes. Ça veut dire que moi je sais que quand j'ai Lou dans les bras, je vais pas du tout avoir la même façon de l'aborder ou de jouer avec elle que Pio. Pio est beaucoup plus, voilà, Pio il est là quoi.
Il prend son temps. Il est zen.
Voilà, c'est un pépère. Il est adorable, mignon, mais il peut vous bloquer pendant 20 secondes avant d'esquisser un sourire, tout ça, parce qu'il est en analyse et qu'il a la flemme, en fait. Alors que Lou, elle est.
Lou, elle se retourne, c'est la sportive, quoi.
Lou, elle est immédiatement plus dans le charme, plus malicieuse, etc. Donc, en fait, je trouve que les relations sont quand même, malgré tout, un peu différentes. Même si je rejoins évidemment Clara là-dessus, bien sûr, quand on joue avec Lou, on joue avec Pio. Quand on joue avec Pio, on joue avec Lou. Ce qui n'est pas le cas avec Thelma. Quand voilà, Thelma, on peut jouer avec elle indépendamment, mais parce qu'elle a 5 ans, qu'il y a un réel échange, elle parle, on peut tenir de vraies discussions, et heureusement avec Thelma, mais là, eux, ils sont petits, mais je trouve quand même que les relations sont, alors la nature est la même, mais il y a quand même, je trouve, un ressenti un peu différent, selon que t'es Pio et Lou dans les bras.
D'ailleurs, c'est marrant parce que Thelma aussi, quand elle va voir l'un, après, elle dit « Non, mais ne sois pas jaloux. » En général, c'est Pio qui est jaloux.
Ouais.
Enfin, ou Lou d'ailleurs. Mais, et en fait, on cherche tous à avoir cet équilibre entre les deux bébés pour leur donner la même vague d'amour, finalement.
Ouais.
Mais, voilà, mais ils sont petits encore, c'est vrai qu'ils sont pas assis, voilà, donc jouer avec eux, c'est nécessairement les avoir dans les bras ou être vraiment face à eux. Moi, j'ai hâte qu'on fasse des chats dans la maison à 5, quoi, qu'on joue tous ensemble.
Et du coup, Mika, tu nous expliquais que tes parents donc, étaient eux-mêmes jumeaux. Est-ce que tu penses que ça a un impact sur ta façon de faire avec Pio et Lou? Est-ce que tu t'inspires de ce que tu as pu voir, en fait, finalement, de tes oncles et tantes?
Alors, c'est possible. En fait, le frère de mon père, donc son frère jumeau, et ses deux gouttes d'eau,
ils se ressemblent
à fond. Est parti vivre en Australie quasiment l'année de ma naissance.
D'accord.
Donc, je l'ai vu de nombreuses fois, mais au travers de voyages qu'il pouvait faire en France, en général tous les 3-4 ans.
Oui, assez donc, ponctuellement finalement.
Voilà. Ouais. Si on met ça bout à bout, j'ai dû peut-être le voir une quinzaine de fois dans ma vie. Mais voilà, je me sens malgré tout très proche de Thierry, donc c'est mon oncle. Le jumeau de ma mère, c'est un tout petit peu différent. C'était donc une relation garçon-fille, comme pour Pio et Lou. Et effectivement, j'ai plus vécu cette relation du fait que je voyais beaucoup plus mon oncle, en fait, dont j'étais très proche pendant de nombreuses années. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que Pio et Lou, en fait, cultivent déjà un peu cette relation que pouvait avoir ma mère avec son frère, un peu taquin, avec un Pio un peu bonhomme, costaud, qui s'en fiche un peu, mais qui, sans sa sœur, ferait pas trop le malin, quoi. On sent qu'il a besoin d'elle et que quand elle est pas là, il est un peu triste. Lou qui fait l'indépendante, mais bon, je t'aime mon frère. Bon, voilà, mais juste parce que c'est garçon-fille et que du coup, je me projette plus vers ça. Mais je sais que mon père m'a beaucoup parlé de la jumélité, du lien qu'il avait et aussi un peu, il faut le dire, du manque affectif qu'il avait avec son frère qui vit à Sydney, en Australie, depuis plus de 30 ans. Et dès qu'il le voit, et là, c'est le cas, dans quelques semaines, ils vont venir voir justement les jumeaux. Mon oncle rentre en France pour quelques jours et il a à cœur de venir voir effectivement nos enfants. Donc ils vont venir à la maison, mais mon père m'a tellement parlé de cette relation fusionnelle, du manque affectif qu'il a eu de voir son frère partir, et puis j'ai tellement vu ma mère et mon père que forcément, moi je vois peut-être plus le côté jumeau que Clara, mais peut-être pour ça aussi, parce que j'ai baigné dans Ouais, c'était incroyable. Fou. Quand j'étais jeune, tous mes copains hallucinaient quand je leur disais.
Non, mais c'est incroyable.
J'étais ado
c'est
et je disais oh, ma mère, elle a un frère jumeau, mon père, il est jumeau. Ils me disaient waouh, je leur montrais des photos, ils hallucinaient. Alors pour moi, c'était juste normal d'avoir des jumeaux dans sa famille. Je me dis quoi, vous n'avez pas de jumeaux dans votre famille? Moi, c'était normal pour moi.
Ouais, donc du coup, ça a quand même un. Enfin, voilà, tu y penses. Enfin, j'imagine, ça paraît logique. Ouais.
Mais évidemment, je vois Lou, évidemment, je vois Pio, je vois Thelma, chaque enfant est. Mais je peux pas m'empêcher au fond de moi d'avoir les jumeaux, je les appelle les jumeaux,
les
twins, je les prends parfois et souvent même tous les deux en même temps dans les bras parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre quoi qu'il arrive. Ouais. Mais il va falloir faire attention à ça, c'est vrai aussi parce que chacun est indépendant et que surtout Thelma ne se sente pas seule quelque part.
Ouais, bien sûr.
Ce sont trois enfants indépendants chacun. Unique, mais oui, Pio et Lou, quoi qu'il arrive, de toute façon, sont liés par leur grossesse, enfin leur naissance, enfin voilà, ils sont jumeaux quoi.
Ouais, ils sont très proches. Enfin, vous les sentez, ce que tu disais. En fait, tu disais que Pio, il a tendance à être un peu perdu s'il y a pas Lou. Ils ont une relation comment en fait
Alors déjà, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que au tout début, quand on est rentré à la maison le premier mois. Pio faisait énormément de bruit, il gémissait un peu dans son lit et puis il avait vraiment du mal à trouver le sommeil, il dormait très peu, c'est très compliqué de l'endormir. Et un jour, en fait, on a décidé de les mettre dans le même lit, ce qui m'avait été déconseillé à l'hôpital où ils sont nés, mais ce qui est conseillé dans certains hôpitaux. Donc bon.
Ouais.
Et en fait, on les a mis dans un grand lit à barreaux à deux. Et le soir même, il a super bien dormi. Alors, il ne sait pas non plus ses nuits, hein, c'est pas magique, mais on a vu un apaisement.
Ah ouais,
donc ça, déjà, c'était assez bluffant de se dire « Waouh !» En fait, il l'appelait.
Ouais.
Enfin,
il
moi, j'avais senti
sœur,
ça. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, ils se tiennent beaucoup la main, par exemple.
Oh, c'est trop chou.
Et ça, c'est hyper mignon. Ils se tiennent beaucoup la main, ils se regardent. Après, ils sont toujours un peu ensemble, finalement. On ne les a jamais vraiment séparés.
Oui.
Donc, on voit pas vraiment la réaction lorsque l'un des deux est absent, puisque ça n'a pas vraiment lieu. Mais par contre, oui, il y a une affection l'un pour l'autre, mais aussi avec Thelma, en fait, finalement.
Ouais.
C'est, non, il y a une alchimie entre les trois, moi, qui me fait fondre. C'est magique.
C'est fou. Et plus généralement, en fait, moi, j'aime bien parler de transmission aussi dans le podcast. Donc, est-ce qu'il y a des valeurs essentielles que vous voulez transmettre à vos enfants? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez? Vous en parlez?
On en parlait pas plus tard qu'avant que tu arrives, en fait. Mais on parlait de ça par rapport à Thelma, on l'imaginait ado. Et on est parti super loin en se disant quelle connerie où on serait intransigeant et lesquels on laisserait passer plus tard. Il y a un truc qui revient souvent, donc Clara parle tout le temps, mais évidemment, je peux que l'argent, c'est le respect en fait, la tolérance envers les autres. Ça, on a vachement inculqué ça à Thelma, peut-être trop, on la tâle avec ça, mais la preuve, dès qu'elle se fait un peu embêter, elle dit non, mais moi je réponds pas trop parce qu'il faut être gentil avec tout le monde. Et on lui dit non, mais parfois t'as le droit de dire que t'es pas gentil. Non, mais quand même, c'est pas gentil de dire qu'on est pas gentil. Je dis, non, mais t'as le droit. Non, mais c'est voilà, ça c'est.
C'est la bienveillance. Et Thelma. Moi, je veux pas qu'elle se moque de qui que ce soit, en fait. Enfin, que ce soit à l'école, moi, j'aimerais que mes enfants défendent un enfant qui peut être en difficulté. Et ça, c'est des valeurs, vraiment, le respect des autres qu'on inculque à Thelma. Et pour l'instant, c'est vraiment des valeurs qu'elle a. Donc, on est super fiers. C'est vraiment le respect des autres, en fait.
Ouais. D'accord.
Se respecter.
Respecter les autres. On voit tellement de choses aujourd'hui. Enfin, il y a des enfants pour qui c'est pas facile, quoi. Et demain, ça pourrait être les nôtres, en fait. On n'en sait rien. Et donc, on a à cœur, effectivement, que Thelma et plus tard Pio et Lou soient toujours, effectivement, bienveillants, respectueux et dans le respect des autres. On a le droit de rire, on a le droit. Moi, le premier, parfois, c'est mon métier, je fais des blagues. Ça plaise ou ça plaise pas, mais c'est jamais malveillant. En tout cas, c'est jamais gratuit.
Il y a toujours un bon fond.
L'idée, c'est que voilà, on blesse jamais quelqu'un gratuitement, en fait. Et voilà, et après, non, je pense que l'esprit de fratrie, mais ça, ils l'auront naturellement, vu comme on est avec eux. on est tout le temps, tous les cinq. Non, mais c'est vrai, et je pense que voilà, les valeurs de la famille, c'est quelque chose de très important. On a le droit de se fâcher, on a le droit nous-mêmes, tous les deux, parfois, de se prendre un peu le chou et tout, mais on reste une famille. Moi, j'ai trop vu dans des familles, que ce soit les miennes ou même pas, hein, d'ailleurs, mais des familles se déchirer entre frères et sœurs, et je trouve ça super dommage, après
c'est triste, c'est clair.
Tant de décennies d'en arriver à un peu se prendre la tête pour des choses futiles, alors qu'on reste, on a le même sang, on grandit, on a les mêmes parents, les frères, sœurs. Et ça, voilà, après le reste, qui s'éclate, quoi. Juste,
ouais,
la vie, c'est...
La vie, prendre la vie de manière légère aussi, enfin, ouais, de profiter, de pas avoir peur forcément du regard des autres. Ouais, on a envie qu'ils aient une vie chouette, pleine de rire. Effectivement, Mika, son univers, c'est l'humour, donc les enfants rigolent beaucoup avec lui, forcément.
Ouais.
Et voilà, et nous, on met beaucoup de musique à la maison, on danse beaucoup entre nous. Voilà, faut qu'il y ait un peu de joie de vivre.
Ouais.
Donc voilà, pour l'instant, on les préserve des actualités qu'on peut voir un peu dures.
Ouais.
Bon, voilà, ils sont encore dans un petit cocon, mais qu'ils y restent encore quelques années.
C'est ça, en fait, ouais, qu'ils gardent leur esprit d'enfant. Je pense que l'insouciance, moi.
C'est une belle valeur aussi. Ouais,
c'est mon plus grand regret, c'est de plus avoir d'insouciance finalement quand on devient adulte et fortiori parent. On n'a plus vraiment toute cette insouciance
sous
couvert de genre, moi je m'en fous, je suis freestyle. Non, avant de prendre une décision, on réfléchit, on
bien
se dit, ok, mais quelles conséquences ça pourrait avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis père, aujourd'hui, je suis mère. Si je prends cette décision-là, ça peut avoir une réelle conséquence sur, sur ma vie de famille. Alors que ça, on ne l'a pas quand on est enfant, et c'est super.
Genre,
quand on se remémore, quand on avait 8 ans, 10 ans, on n'avait aucun souci.
Ouais, c'est clair.
C'était super.
C'est clair. Et alors maintenant, une petite question pour Clara. En fait, du coup, je voulais savoir, Clara, c'est une question que je pose habituellement dans le podcast. Donc, quel rapport tu entretiens avec ton corps de maman? Du coup, tu nous as déjà dit qu'effectivement, ta grossesse gémellaire n'avait pas forcément été plus impressionnante, on va dire, en termes de transformation. Mais voilà, donc la question, c'était ça.
Alors déjà, mon corps enceinte, je l'ai beaucoup plus accepté avec les jumeaux. Parce que en fait, il y avait un truc marrant, c'est que quand j'étais enceinte de Thelma, j'ai pris 27 kilos, et beaucoup de gens me disaient « Oh là là, mais ce sont des jumeaux, vous allez accoucher demain », donc ça, c'est toujours des phrases qui m'ont agacée.
Ouais.
Et sauf que là, quand on me disait, pour Pio et Lou, « Mais c'est des jumeaux », je pouvais répondre oui. Et puis en général, voilà, après, il n'y avait plus de discussion, donc ça, c'était cool. Et ensuite, là, en fait, les jumeaux ont 6 mois. J'ai entrepris en novembre un régime parce que en fait j'ai aussi envie de retrouver mon corps.
Ouais.
Ça fait donc Thelma va avoir à 5 ans et demi. Quand Mika m'a connue, j'étais plus mince et en fait là voilà j'ai 3 enfants, on n'a pas de projet de 4e. Donc là maintenant mon corps je le récupère un petit peu.
Tu l'avais pas récupéré entre guillemets entre les deux
j'avais
grossesses.
J'avais récupéré mais bon il me restait encore quelques kilos en trop donc donc voilà là je suis en train de vraiment me sentir mieux dans mon corps et puis je pense que c'est important aussi en tant que maman de montrer qu'on est à l'aise dans son corps. J'ai pas envie que mes enfants me voient complexée alors ils sont encore jeunes et donc voilà donc là je suis en train de gommer les kilos qui me dérangent et puis voilà pour profiter tout simplement donc je retrouve un peu mon corps. Les bébés ont 6 mois, tellement j'ai mis 2 ans à perdre hein, donc chacun son rythme, c'est aussi le bon moment et voilà.
Ouais, donc t'es plutôt à l'aise avec tout
avec
ça quoi.
Avec la marque de la grossesse.
Ouais.
Bah, je suis pas sûre d'être encore en maillot de bain de pièces l'été prochain, mais je devrais hein. Parce que oui, il y a des marques, bien sûr, il y a des vergetures, le corps a changé. Il est moins tonique, mais bon, après quelque part, j'ai donné la vie à 3 enfants, donc.
Ouais.
Finalement, c'est beau. Donc, il faut aussi s'assumer. Et voilà, donc rendez-vous l'été prochain, on verra. Mais, j'ai pas de gros complexes. Je suis très fière d'avoir eu la chance de donner la vie aussi, c'est une chance.
C'est vrai.
Donc, je suis très contente.
Bon. Et donc maintenant une question un peu pour tous les deux puisque en fait on en a un petit peu parlé. Donc vous disiez que vous arrivez à prendre du temps pour vous, à la fois à deux et est-ce qu'individuellement vous avez vos activités. Enfin comment vous organisez de ce point de vue-là parce que c'est pas forcément évident.
Non, c'est pas évident. Ça se prévoit bien sûr. C'est assez rare de pouvoir prévoir à 18h. Tiens ce soir on sort. Non, ça ce n'est pas possible.
C'est fini.
Ça peut, mais c'est assez rare. Non, non, en général on prévoit, mais on prévoit assez régulièrement. Effectivement, et Clara, peut-être même plus que moi, mais tous les deux on a à cœur de pouvoir s'évader, avoir des petits moments. Alors c'est pas grand chose, hein, mais c'est un resto, c'est rejoindre des amis qui sont en soirée, c'est parfois combiner ça, c'est-à-dire aller d'abord dîner et ensuite rejoindre des potes qui sont en soirée et se dire voilà, allez, on fait un package et on rentre à 2-3 heures du mat. Parce que le lendemain, bah, y a les biberons, on va pas non plus rentrer à 6 heures dans notre, comme dans notre fière jeunesse de vingtenaire, c'est plus le cas aujourd'hui, il faut assumer, on est parents de 3 enfants. Mais on a à cœur de partir 1 à 2 fois. Par an.
Ouais, deux week-ends.
Deux week-ends, voilà. En général, on prévoit avec. avec la mère de Clara, le père de Clara aussi. Mon père, s'il peut être dispo, il n'est pas sur Paris, mais si on peut prévoir en amont, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, on part 3 jours, 2 nuits.
Là, on est déjà parti depuis la naissance des jumeaux à deux. On est parti début décembre, on est parti à Budapest. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on reparte en juin, juillet aussi tous les deux. Je pense que pour notre équilibre, et c'est ce qu'on a fait depuis la naissance de Thelma, je dirais qu'il nous faut 2 week-ends par an à deux. Ouais. Pas une semaine, hein, on s'emballe pas, 2 week-ends par an. Ensuite, ouais, effectivement, comme disait Mika, on se fait pas mal de restos. On a eu la chance de trouver une super babysitter.
Oui, ce que j'allais dire, c'est pas évident. Ouais.
Parce que voilà, c'est une fille qui a de l'expérience avec les tout petits bébés, avec les jumeaux, qui travaille dans le médical, ce qui est rassurant aussi. Donc on sort déjà l'esprit léger, ça c'est super important d'être à l'aise. Et après, parfois on s'est fait dessiner aussi, quand on était vraiment KO, on s'est dit en fait on a envie de quoi ? On a juste envie d'être dans une salle de ciné avec un paquet de pop-corn. Et en fait on l'a fait sans se prendre la tête et ça nous a fait du bien. Voilà, mais des sorties à deux...
Après, le plus difficile reste, et c'est ce que tu disais dans ta question, c'est les moments seuls, réellement seuls. En fait, ça paraît difficile parce que forcément, on est dans une logistique. Clara, le matin, est seule avec les 3 enfants. En journée, quand je ne suis pas là, elle ne peut pas vraiment se poser. Elle bosse, quoi. Moi, quand je rentre, c'est pareil. En général, il y a Clara. Enfin, on a rarement ces moments vraiment seuls, à 100%. Mais voilà, quand il faut en avoir, on en a. On part faire du shopping.
On a chacun nos soirées, l'un et l'autre, nos groupes d'amis communs, évidemment, mais aussi séparés. Ça reste, je dirais que c'est le point sur lequel il faudrait qu'on trouve un peu notre équilibre, c'est le temps pour soi.
Ouais, le temps pour soi.
C'est plus difficile d'avoir un loisir.
C'est plus difficile,
D'avoir, après, ça s'aménage. Je veux dire, voilà, ça on fait plus... On fait plus les activités le soir, mais on les fait peut-être le midi. Voilà, enfin, tout s'aménage, en fait. C'est possible, c'est juste qu'il faut prévoir plus en amont. Mais la clé, c'est quand même, je pense, et je reviens sur ce que disait Clara tout à l'heure, si le couple est épanoui ensemble, a priori, les enfants le sont aussi.
Ça, c'est sûr.
Voilà.
C'est sûr. Et pour finir donc, cette interview, est-ce que vous avez des inspirations ou des bons plans à partager par exemple, des livres que vous avez lus ou des inspirations un peu qui vous ont aidé ou qui vous aident encore au quotidien ?
Alors nous, quelque chose qui nous aide beaucoup, c'est de partir de notre appartement en week-end.
D'accord.
Donc ça, c'est un conseil que je donnerais à tous les futurs parents de jumeaux ou d'ailleurs les futurs parents. C'est pourquoi pas pendant la grossesse se mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois pour pouvoir partir en week-end. Parce qu'en fait, quand on est dans cette logistique assez folle des premiers mois avec des bébés, on peut plus voir notre appart ou notre maison. Et en fait, juste de s'évader, de partir un week-end le plus simplement du monde dans un petit Airbnb pas trop cher. Et en fait, après, d'avoir le plaisir d'en rentrer à la maison. Enfin, voilà, nous, on a fait beaucoup de week-ends. Et ça, à chaque fois, ça nous fait un bien. Là, on rentre de week-end, d'ailleurs.
Ouais.
Et en fait, juste prendre l'air et sortir de la maison. Nous, c'est quelque chose qui nous a depuis toujours fait beaucoup de bien.
Ouais.
On se prévoit aussi pas mal de voyages en amont, que moi, j'appelle les échéances de bonheur. et on prend le billet très à l'avance pour avoir des prix abordables. Et voilà, en fait, d'avoir toujours en tête cette petite échéance d'un voyage, je sais pas, là on s'est programmé par exemple en juillet un voyage au Portugal, bah, dans un coin de la tête, quand on est un peu fatigué, que ça va pas, moi je me dis, ah ouais, mais on va partir en vacances, ça va être bien, et puis voilà, c'est un peu positif. Bon, moi ce serait les voyages, mais parce que je suis passionnée de ça, les voyages et les week-ends après.
Non, mais si, je rejoins Clara là-dessus. Je pense que c'est. Chacun, on peut faire comme il peut, et voilà, et nous on pourrait pas partir 15 fois par mois non plus, donc en général on prévoit ça en amont, et voilà, mais après je sais pas si c'est peut-être pas propre aux Parisiens aussi, ou des grandes villes, quoi, Paris, Lyon. Même Marseille, enfin, je sais pas. Après, à Marseille, moi qui viens du sud de la France, j'avais moins besoin de partir.
Ouais, ouais.
J'avais pas d'enfants.
T'as moins besoin de sortir quand
on a moins besoin de sortir quand on est dans le sud et qu'on a déjà une petite maison, un petit jardin. C'est pas grand chose. À Paris, un jardin, ça n'existe pas. Donc, juste avoir un coin de verdure, effectivement, on est obligé de partir de Paris. Mais non, je dirais qu'en fait, il faut réussir aussi à passer au-dessus. Au-dessus de la flemme, en fait, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'on est bien souvent tenté par le fait de ne rien faire. C'est-à-dire que le samedi, c'est le week-end, on se dit, allez, on glande, on va juste à l'épicerie, au marché à côté, on va racheter un poulet, 2 carottes et on fait à manger et on fait rien de la journée.
Et en fait, on peut pas vraiment glander avec trois enfants.
Non, non, mais justement, en fait, on se rend bien compte que nous, on s'en rend compte. Je pense que c'est valable pour tous les enfants. Bah, quand on prend la voiture, ils dorment. Quand on bouge en poussette, ils dorment. Et quand bien même ils dorment pas, bah, ils profitent, ils regardent, ils vivent, ils profitent. Et je dis ça, c'est paradoxal parce que nous, en ce moment, on est justement en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on fout quoi? Les week-ends, on fait rien. Et je pense qu'il faut réussir à aller au-delà de sa flemme, mais comme pour tout, en fait, c'est juste se dire, allez. On y va, on va se balader, mais même dans la forêt à côté, dans le parc, on va courir, on va au bord de la plage si on habite dans le sud, ou dans le nord, ou dans l'ouest. Enfin voilà, on va en forêt, on fait peu importe, on fait un truc, mais on le fait. Et juste, ouais, voilà, après les inspirations, non, les livres et tout, non, on lit pas, nous on n'a pas le temps.
Bah si, on lit plein d'histoires à Thelma, mais nous on lit pas, ouais, c'est clair. On se reparle dans quelques mois peut-être, mais les livres sur le transat et tout, je sais pas, je pense dans quelques années.
Ouais, c'est clair.
Si, les playlists, ouais,
musique, on écoute beaucoup de musique.
Ça c'est cool, musique c'est, voilà.
Ah, mais ça c'est bien aussi, parce que ça permet de mettre une ambiance.
Ouais, ça c'est chouette.
C'est un bon conseil aussi. Donc des playlists Spotify à prévoir dans la grossesse.
Exactement, exactement, ouais.
Il y a une chose qu'on voudrait vraiment dire avec Mika, parce que on parle beaucoup de la gémellité aujourd'hui.
Oui.
Non, je ne suis pas enceinte. non, ce qu'on voudrait dire, c'est que nous, quand on a appris que j'attendais des jumeaux, on a croisé énormément de gens dans la rue. D'ailleurs, depuis qu'on a les bébés en poussette, dès qu'on se balade, qui ont des réflexions très agaçantes, en fait.
Ouais.
Bon courage, oh là là, c'est dur, vous verrez dans 5 ans, ça ira mieux. Et je me suis rendu compte que quand on attendait des jumeaux, on avait beaucoup de commentaires comme ça. J'ai échangé avec des personnes qui attendent des jumeaux sur Instagram aussi, qui ont eu les mêmes réflexions. Et en fait, prenez du recul sur ces réflexions-là, parce que des jumeaux, c'est que du bonheur. Donc oui, on est fatigué, oui, il y a une logistique, mais qui est la même pour les futurs parents d'un enfant. Juste prenez du recul. Ne stressez pas, parce que voilà, on finit toujours par s'en sortir, on finit toujours par redormir, et c'est magique, vous allez découvrir les rires des enfants, le lien qui unit les jumeaux, que nous on découvre à peine, mais qui est déjà magique, et juste de prendre du recul sur toutes ces réflexions.
Oui, c'est vrai que c'est l'image. C'est vrai que
c'est pas la panique d'avoir des jumeaux, en fait, c'est une chance d'avoir des jumeaux, c'est une chance d'avoir des enfants. C'est une chance pour une famille, c'est une très belle relation. Nous, on la découvre, on n'est pas jumeaux nous-mêmes. Juste, en fait, c'est une chance. Et voilà, faut pas stresser, c'est quelque chose de positif. Et ça, on voulait vraiment.
On t'a mis en colère, hein, dis donc.
Ah, bon. Non, mais c'est important.
Non, mais c'est vrai, Clara.
Non, mais c'est toi aussi, c'est vrai.
Non, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention.
C'est vrai.
Là, on a beaucoup parlé de gémellité. Donc, si effectivement il y a quelque chose à retenir, c'est beaucoup de bonheur.
Ouais.
Mais du coup, laisser le bonheur aux gens, en fait.
Ouais, c'est clair.
Enfin, je pense que les gens qui nous écoutent sont forcément et nécessairement intéressés par la grossesse, la gémellité. Donc, c'est plutôt des gens qui attendent un heureux événement, ou en tout cas qui ont une curiosité autour de ce sujet, ou qui tout simplement envie d'écouter ton podcast, et ils font très bien. Mais pour tous les autres, voilà, il faut faire attention. C'est pas grand-chose, mais parfois, c'est une petite mamie qui passe et qui dit oh là là, bah dis donc, bah bon courage mon vieux, et puis t'as envie de lui dire bon courage d'être heureux, en fait, bon courage d'avoir deux magnifiques enfants qui sont adorables, et regardez-les, ils sourient,
en bonne santé.
Il y en a plein qui
bonne
nous
santé,
ont dit
en fait, c'est...
Le nombre de gens qui nous ont dit ah moi j'aurais détesté, je trouvais ça incroyable quand j'étais enceinte d'entendre ça, bah c'est pas toi donc
et puis c'est des phrases, ils se rendent pas compte, heureusement qu'on prend un peu de hauteur là-dessus, mais c'est la preuve que non, puisqu'on en parle, mais c'est des choses qui au fond de nous parfois ressortent, on se dit mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? J'aurais détesté.
Ouais.
Et c'est, je trouve que c'est terrible de dire ça, en fait.
Oui,
j'aurais détesté.
Après, nous, ça nous fait quand même sourire. On a du recul, mais ça peut être blessant aussi. Ça dépend comment on vit sa grossesse. Je pense que ça peut être blessant. Donc, faut faire attention à ce qu'on dit.
Oui, et puis il peut y avoir aussi des parents qui sont peut-être plus stressés
pendant
la grossesse.
Ouais.
Que du coup, en fait, quand, admettons, t'as un coup de stress et là, tu croises quelqu'un qui te dit tu rentres chez toi.
Moi, j'ai déjà eu la mère qui a déjà eu des jumeaux qui m'a dit moi, j'ai mis 6 ans à m'en remettre et tout. Et avec des bébés, il devait avoir un mois ou deux mois. J'allais à la pharmacie, je crois. Et je me dis, mais. Heureusement vraiment que là je prends du recul, parce que sinon je laisse la poussette, je me barre à l'autre bout du monde.
Tu pars en courant.
C'est terrible, mais ça fait flipper quoi. Moi je m'en suis remis, et puis la main sur l'épaule en mode genre c'est un fardeau. Bah non, c'est des enfants, c'est magnifique. Mais bon, faites des gosses.
C'est dur. C'est dur niveau fatigue, mais franchement c'est que du bonheur, et vraiment on croit sincèrement en cette phrase. C'est une grande chance, et voilà, c'est positif.
C'est super de vous voir. Moi, les auditeurs peuvent pas vous voir, moi je vous vois, et c'est vrai que vous avez l'air hyper hyper heureux et épanoui. Donc en tout cas, c'est un super mot de la fin. Bah, merci beaucoup, Clara et
avec
Mika.
Plaisir, merci
à toi, avec
voilà.
plaisir.
Et puis bah, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram @JolieBump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolie Bump et Indie Crew. À très bientôt.